La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, où va l'Homo technologicus ? Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici, très nombreux, et à vous autres qui êtes ailleurs, encore plus nombreux. Nous sommes en public dans la grande salle du théâtre de l'Odéon à Paris pour le troisième épisode de notre cycle intitulé « Comment avons-nous su ce que nous savons ?». Chaque fois, l'idée c'est de raconter de la façon la plus claire possible comment une connaissance scientifique a fini par s'imposer au cours de l'histoire des idées. Le but, c'est tout simplement d'acquérir ensemble une meilleure connaissance de nos connaissances, afin d'être mieux armés pour expliquer aux autres ce que nous savons. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons faire les choses à l'envers. Nous allons inverser la flèche du temps. Au lieu de nous intéresser au passé, nous allons tenter d'examiner le futur en nous posant la question suivante. Que savons-nous aujourd'hui de ce que nous ferons demain avec les nouvelles technologies ? Big data, intelligence artificielle, nanotechnologie, biologie de synthèse, robotique, tous ces noms semblent capables d'étayer les scénarios les plus contradictoires. Ici, on les accole à d'effrayantes prophéties. Là, on les accole à de séduisantes promesses. On les associe tantôt à l'idée de salut, avec en ligne de mire un homme nouveau, débarrassé des soucis liés à la matérialité du corps. Tantôt, on les associe à l'idée de catastrophe, d'abomination, de liquidation de ce que nous, les humains, serions en vérité au fin fond de nous-mêmes. Dans le premier cas, on clame que les technologies qui s'annoncent donneront à l'idée de progrès l'occasion d'une rédemption radicale, mais sans doute pas pour tout le monde. Dans le second cas, on avance qu'avec elles, s'en sera bientôt fini de l'affaire homme, comme dirait Romain Gary, et que déjà, la puissance des bouleversements en cours est si forte qu'il n'y a plus de place pour le jeu politique ou l'agir démocratique. Ces deux camps opposés, celui du salut et celui de la catastrophe, s'accordent toutefois pour penser que les nouvelles technologies seront capables de transgresser nos limites corporelles et biologiques, donc de collaborer à l'estompement de la distinction entre nature et artifice. En d'autres termes, elles vont nous cyborgiser, je crois que c'est comme ça qu'on dit, elles vont nous cyborgiser à petit feu et à l'insu de notre plein gré. Finalement, que l'on soit technoprophète ou technosceptique, la prémisse du discours est la même. Les nouvelles technologies nous conduisent en mode toboggan vers un monde qui n'aura plus grand-chose à voir avec celui dans lequel nous vivons. À quoi ce monde ressemblera-t-il ? Pourrons-nous procréer à n'importe quel âge ? Pratiquerons-nous l'ectogénèse, c'est-à-dire l'incubation du fœtus hors du corps de la mère ? Éradiquerons-nous toutes les maladies ? Vivrons-nous si longtemps que nous finirons par nous ennuyer à mourir, mais sans pouvoir mourir, même pas à la fin ? Mais au fond, désirons-nous tout cela ? Acceptons-nous de sortir sans crier gare de la condition humaine ? Combien parmi nous pensent que le vouloir vivre humain, vouloir vivre en humain, c'est d'abord accepter notre finitude, nous réconcilier avec nos limites et même les revendiquer, qu'elles concernent la naissance, la souffrance ou la mort ? Qu'être pleinement humain, c'est aussi refuser ce qui nous robotise, à commencer par l'abus des machines auxquelles nous devrions nous soumettre. Ce sont des questions évidemment infernales, pas simples du tout, car elles mélangent la philosophie et la technique. Et c'est pourquoi j'ai invité pour les traiter deux personnes qui y ont abondamment réfléchi. Jean-Michel Beignet, à ma droite. Bonjour.
Bonjour, Étienne.
Vous êtes philosophe, spécialiste des nouvelles technologies. Et vous venez de publier une discussion que vous avez eue avec Laurent Alexandre, qui est médecin et entrepreneur. Une discussion virile mais correcte, ou plutôt correcte mais virile. Vous n'êtes pas d'accord. Et le titre de cet ouvrage est « Les robots font-ils l'amour ?» Vaste perspective. Et par ailleurs, vous publiez à titre personnel cette fois « La sagesse ordinaire » aux éditions Le Pommier. Et à ma gauche, Jacques Testard, biologiste qu'on ne présente plus. Vous êtes le père scientifique du premier bébé éprouvette français conçu par fécondation in vitro, Amandine. Et avant de commencer notre conversation, je voulais vous faire réagir l'un et l'autre à deux citations, enfin une pour chacun. D'abord une pour Jacques Testard. qui ne devrait pas lui déplaire, c'est du moins ce que je pense, mais je voudrais en être sûr. La citation est celle-ci, elle vient d'Émile Cioran. « Être moderne, dit-il, c'est bricoler dans l'incurable. » Ça vous plaît ?
Oui, c'est un peu compliqué, à cause de l'incurable. Hein. Parce que bricoler, on comprend bien, moderne, on comprend bien. Mais oui, je sens un peu ce que ça veut dire. En général, Cioran, ça me plaît.
Vous connaissez l'anagramme d'Émile Cioran ? Qui a peut-être déteint sur sa philosophie, d'ailleurs. Émile Cioran, ça donne l'acrimonie. Je me tourne vers Jean-Michel parce que j'ai pour lui une citation. Vous citez souvent dans vos ouvrages Günther Anders, philosophe autrichien qui a été le premier mari d'Anna Arendt. Il a écrit ceci à propos des idéologies. « On n'évalue pas une idéologie aux réponses qu'elle apporte, mais aux questions qu'elle évacue. » Alors le transhumanisme dont j'ai un peu parlé, c'est d'abord un mot qui a été inventé en 1957 par le frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes, mais c'est aussi une idéologie. Donc si Günther Anders a raison, il y a des questions que l'humanisme, que le transhumanisme plutôt évacue, et que vous essayez de traiter dans votre ouvrage, dans votre discussion avec Laurent Alexandre, quelles sont les questions qui sont évacuées par le discours post-humaniste ?
Ben merci pour cette citation, parce qu'elle est, elle est fort intéressante. Parce que ce que dit Anders en peu de mots, c'est qu'une idéologie, c'est moins un système d'idées qui nous empêche de dire que un système d'idées qui nous force à dire. Hein. Et en nous forçant à dire, précisément, on nous force à évacuer un certain nombre de choses. Donc l'idéologie appliquée au transhumanisme évacue de fait un grand nombre de questions. Et les questions qu'elle évacue, c'est d'abord et avant tout les questions qui concernent l'humain, le spécifiquement humain. Là, le transhumanisme nous force à nous considérer comme d'éventuelles machines, hein, pour ceux en tout cas qui parviendront à s'accaparer les technologies, et va laisser de côté de plus en plus les questions existentielles qui sont les nôtres, la question existentielle de la conscience, la question existentielle de la responsabilité, la question existentielle de la liberté. Toutes ces questions-là vont être évacuées au profit de cette espèce de triomphe d'une conception machinique du monde.
Donc le sous-titre de votre ouvrage, c'est « Le transhumanisme en 12 questions », c'est-à-dire que vous avez trouvé 12 questions qui sont en quelque sorte refoulées par le discours transhumaniste ?
En tout cas, ce sont des questions qui sont marginales aux préoccupations des transhumanistes, qui ne font pas métier de réflexion d'une manière générale, mais ce sont des questions qui m'ont semblé, nous ont semblé, en tout cas, devoir être portées contre ces transhumanistes qui voudraient, en gros, nous couper la parole, hein, parce que c'est peut-être quelque chose sur lequel je reviendrai, mais la technologie, c'est d'abord et avant tout une entreprise, une offensive contre le langage et contre la délibération.
En effet, nous y reviendrons, mais vous citez dans votre discussion avec Laurent Alexandre la définition de l'homme donnée par Jean-Jacques Rousseau. L'homme est un être perfectible, et c'est une façon d'ailleurs de le définir, enfin de le distinguer de l'animal qui, lui, n'est pas perfectible. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Est-ce que dans l'esprit de Rousseau, c'est simplement la perfection morale qui est en jeu ? Ou est-ce qu'il pensait aussi à une éventuelle perfection du physique et du mental, etc. ?
Chez Rousseau, c'est ambigu, parce que cette perfectibilité, c'est l'aptitude que l'humain a de devenir autre qu'il n'est, à changer. Hein ? Et pour Rousseau, le changement peut se faire aussi pour le pire. La perfectibilité, c'est le fait que nous ayons construit les sociétés que nous avons construites et qui paraissaient à Rousseau absolument calamiteuses. Donc cette perfectibilité, il faut y voir l'indice d'une possible variation, hein, mais qui peut nous conduire vers le meilleur comme vers le pire. Et là, on est en plein dans cette problématique. Les technologies nous révèlent que nous sommes infiniment malléables, alors même que nous aurions pu penser que nous étions des substances bien solides, bien définissables, bien distinguables par rapport à l'animal, par rapport à la machine. Non, tous les savoirs scientifiques et techniques aujourd'hui nous révèlent que nous sommes extrêmement fluctuants, hein, et nous pouvons devenir le pire comme le meilleur, Et la technologie, c'est au fond le nom de ce pire ou de ce meilleur, un pharmacon, comme disent certains, c'est-à-dire un poison ou un remède. Hein, et selon que l'on considérera que cette aptitude à changer nous conduit vers le meilleur ou vers le pire, eh bien on mettra l'accent, comme vous le disiez dans votre introduction, soit sur la catastrophe, soit sur la promesse.
Jacques Testard, vous lisez les manifestes transhumanistes ? Ça vous intéresse ?
Oui, pour pouvoir les critiquer, il faut les lire.
Moi, quand je les lis, je me sens hypochondriaque. Vous pensez que c'est normal ? Oui, j'ai l'impression que rien ne va, que je suis un être dégradé, que je suis loin de ce que je pourrais être.
Non, mais je crois que il y a beaucoup d'illusions colportées par le transhumanisme. Malgré tout, c'est des acteurs qui vont devenir de plus en plus importants. Ils vont changer des choses, c'est sûr, mais ils n'iront pas jusqu'au bout de leurs promesses. Si on prend l'immortalité, je crois qu'aucun biologiste n'y croit, par exemple. Mais il y a quelque chose qui, dans les questions auxquelles Jean-Michel Beignet a essayé de répondre avec Alexandre, il y a une question fondamentale qui est évincée, c'est celle de l'environnement. C'est la nature. Peut-on vivre sans la nature ? La question, bon, peut-on vivre avec des robots ? Peut-être, mais sans la nature, on ne peut pas. Or, les transhumanistes ont un mépris total, une ignorance qu'il y a quelque chose autour qui nous est indispensable. Et je crois que ça va être une des raisons pourquoi le transhumanisme ne peut pas aboutir à toutes ces promesses, malgré les miracles techniques. C'est qu'on est là dans une situation où on est devant deux périls, celui effectivement du transhumanisme, mais celui aussi de l'environnement. Et lequel va gagner ? Les deux ne peuvent pas gagner ensemble.
Je suis étonné, si je peux me permettre, je suis étonné que vous vous étonniez de ça, de cette élision de la nature, parce que c'est au principe même du transhumanisme que de dire « il faut en finir avec la nature ». La nature, c'est la passivité. La nature, c'est la fragilité. La nature, c'est la vulnérabilité. C'est avec ça qu'il faut en finir. Hein, là, de ce point de vue-là, les futuristes italiens le disaient aussi de la même manière. L'acier va nous permettre de fabriquer un homme d'acier qui nous permettra de congédier la nature. Oui, mais alors aujourd'hui, les transhumanistes, ils peuvent dire « on va virtualiser ». La nature, hein, et c'est comme ça qu'on s'en empêchera. Regardez les fanatiques de Pokémon, hein, ils sont dans un environnement, hein, effectivement, dont ils n'aperçoivent que la pixelisation sur leurs petits écrans, etc. Donc, c'est au principe même, cette évacuation. Et aujourd'hui, où on relance la conquête de l'espace aux États-Unis, on le fait pourquoi ? Dans cette idée absolument saugrenue qu'il va falloir quitter cette planète, hein, et quitter cette planète pour une autre contrée dont on pourra éventuellement s'assurer la maîtrise beaucoup plus efficacement que la maîtrise de la nature à laquelle on ne parvient pas ici.
Jacques Testard, j'ai oublié de citer votre livre en vous présentant. Vous venez de publier un ouvrage intitulé « Rêverie au pluriel d'un chercheur solidaire ». Où on trouve d'ailleurs une critique du transhumanisme qui reprend des arguments que vous venez de développer. Et comme le titre de l'ouvrage de Jean-Michel Beignet, coécrit avec Laurent Alexandre, c'est « Les robots font-ils l'amour ?», je vous propose que nous écoutions un poème de Jacques Prévert, lu par Léon Bonafé, qui s'intitule « L'amour à la robote ».
Un homme écrit à la machine une lettre d'amour. Et la machine répond à l'homme et à la main et à la place de la destinataire. Elle est tellement perfectionnée, la machine. La machine a lavé les chèques et les lettres d'amour. Et l'homme, confortablement installé dans sa machine à habiter, lit, à la machine à lire, la réponse de la machine à écrire. Et dans sa machine à rêver, avec sa machine à calculer, il achète une machine à faire l'amour. Et dans sa machine à réaliser les rêves, il fait l'amour à la machine à écrire, à la machine à faire l'amour. Et la machine le trompe avec un machin. Un machin à mourir de rire.
Merci Léon Bonafé. Ça doit pas être très drôle d'être cocufié par une machine à faire l'amour. En même temps, demander la fidélité à une machine, c'est sans doute trop demandé, Jean-Michel Beignet. Surtout si elle nous trompe avec une autre machine, ce serait quand même le truc vraiment désagréable.
Oui, effectivement, la fidélité à la machine...
Non, c'est peut-être plus supportable d'être trompé par une machine, parce qu'on peut toujours dérégler un engrenage et s'arranger pour qu'elle change d'avis.
À la machine, ça se sabote.
Oui, mais comment est-ce qu'on est sûr de son désir ?
Ah, faut faire des tests.
Tiens, à propos de test, Jacques Testard, j'ai découvert quelque chose dans votre livre. Vous avez pratiqué, dites-vous, la pataculture sur des vaches avant de vous intéresser aux embryons humains, en vous inspirant sans doute du Père Ubu, de la pataphysique, qui est définie comme étant la science des solutions imaginaires. Mais qu'est-ce que c'est que la pataculture et comment fabrique-t-on des patacultes ?
Ah, oh, ça c'est compliqué. Mais c'est vrai que je ne l'ai jamais raconté en détail.
Si, là, vous le faites mot, en détail.
C'est pas vraiment en détail. Page. J'ai encore des patacultes dans un tiroir chez moi. Je pourrais vous les montrer. Mais le mot m'est venu parce que j'ai trouvé que c'était tellement, tellement fou, tellement plein de merde, de vaches, de sang, de tout ce que je faisais.
De quoi parlez-vous là? Vous êtes...
Alors, je suis en train de parler de mon premier métier, mon premier travail de recherche, qui consistait à faire des mères porteuses de vaches dans le but d'accélérer la sélection génétique des vaches hautes productrices de lait. C'est-à-dire, on y reviendra peut-être, quelque chose de complètement stupide au moment où il y a des excédents laitiers. Mais j'étais une jeune, on m'a collé ce sujet, le chercheur choisit pas son sujet. Il y a quelqu'un, on sait jamais qui choisit pour lui. Donc on m'a collé ça et j'ai imaginé comme méthode, puisque les vaches ne font qu'un veau par an, de leur en faire plusieurs, en faisant une super ovulation d'une vache de haute qualité laitière, donc c'est-à-dire en lui faisant pondre beaucoup d'ovules. On savait pas faire la fécondation in vitro, donc en inséminant cette vache, avec un taureau qui lui-même était père de vaches de haute qualité laitière, et de récupérer les embryons dans l'utérus pour ensuite les distribuer un par un dans l'utérus de génisse ordinaire qu'allait porter pendant 9 mois ces embryons de haute qualité. Alors pour faire tout ça, il fallait en même temps que ça puisse être fait à la ferme. Ça devait sortir du laboratoire. Donc j'ai imaginé des techniques semi-chirurgicales que je faisais tout seul. C'est-à-dire que je commençais par laver le cul de la vache, stériliser le vagin, tout. Bon, et je faisais tout ça tout seul. Et c'était assez horrible quand même, quand on y pense.
Oui, enfin, je ne vais pas lire la description de la pratique, mais en effet, je n'aurais pas été candidat à votre place.
Ah non, mais elle n'était pas candidate. Hein.
Non, mais je parle de vous. La vache, j'en parle même pas.
Mais j'ai réussi. En 1972, j'ai eu les premiers veaux. C'est là que je me suis posé des questions, mes premières questions, sur qu'est-ce que la science, qui décide des sujets, peut-il y avoir une recherche absurde ? Et que j'ai donc changé de boutique.
Mais la pataculte, c'est presque une catapulte.
Oui, c'est une catapulte, effectivement, mais qui, pour la pataphysique, devenait une pataculte. Donc j'étais un pataculteur.
Vous en balanciez des embryons ?
Absolument.
Un par un ?
Absolument.
Avec une
pataculte. Et d'ailleurs, ça m'a suivi longtemps, parce qu'après, quand j'ai travaillé sur la femme, sur la fécondation in vitro, sur la porte de mon laboratoire, j'avais affiché quelque chose, Jacques Testard, pataculteur, inventreur. Et le chef de service m'a dit quand même, pour les patients, ça fait peur.
Et vous parlez de la pataculture.
C'est le Thierry Lafront de la génétique, en fait.
Un viol baroque d'innocentes bovines. J'aime beaucoup cette expression qui résume effectivement votre côté agressif qu'on ne voit pas immédiatement.
J'étais pas vraiment agressif, c'est le système qui est agressif. Mais les pauvres vaches n'avaient rien demandé, c'est sûr.
En tout cas, vous n'aurez pas pensé que votre livre est truffé d'anecdotes croustillantes, même s'il y en a beaucoup. Il y a aussi un discours qui, sur le fond, est assez pessimiste. Ça rejoint d'ailleurs des choses qu'on retrouve dans l'ouvrage de Jean-Michel Beignet, notamment lorsque Laurent Alexandre, qui quand même soutient, enfin adhère plus ou moins au test transhumaniste, écrit que l'humanité est déjà lancée sur un toboggan transgressif. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce qu'il veut dire qu'on est en train déjà de pratiquer une forme d'eugénisme ?
Oui, assurément. Il est convaincu qu'on est sur une pente glissante et qu'on n'a rien pour se rattraper. Hein, et que la seule manière de faire, c'est d'accompagner le mouvement. Hein, ça, c'est la thèse des transhumanistes en général et de Laurent Alexandre en particulier, qui préfère souvent se définir comme un technoprogressiste plutôt que comme un transhumaniste, mais ça revient quand même relativement au même. Donc c'est l'idée que, effectivement, on a enclenché un processus contre lequel on ne pourra plus aller. L'eugénisme, il est là, hein, il est là derrière les instruments que nous avons pour trier les embryons, etc. Donc il est là en tout point, il est là dans l'idée que nous avons de pouvoir utiliser des technologies sophistiquées pour intervenir sur le génome, enfin bref, tout l'arsenal de l'eugénisme que l'on diabolisait à juste titre après la Seconde Guerre mondiale, tout l'arsenal est à notre disposition, et pour Laurent Alexandre, on trouvera encore quelques réactions morales effarouchées face à toutes ces technologies. Mais elles seront décidément impuissantes parce que les méga machines qui supportent tout cela, hein, les GAFA comme on les appelle, hein, créent une situation qui est décidément irréversible.
Il dit même que les partis politiques vont être complètement dépassés par l'ampleur des bouleversements qui seront ingérables dans les termes trop anciens pour pouvoir les saisir.
La thèse est que les politiques sont déjà très largement dépassés. Hein, et que
vous êtes d'accord avec ça, Jacques
Tessa ?
Oui, complètement, d'autant que le génie, c'est vraiment mon sujet d'inquiétude, et que ça fait 30 ans que je me bats contre le tri des embryons, de plus en plus isolé. J'ai été isolé très vite dans la profession, maintenant je le suis même dans la société. J'ai l'impression que les techniques, et je pourrais donner des exemples récents, me donnent raison, mais alors, l'histoire me donne raison au moment où la société ne m'entend plus. Parce qu'au début, on disait, mais oui, c'est terrorisant. Si on choisit les enfants sur catalogue, ça. Aujourd'hui, les gens me disent, ben, pourquoi voulez-vous qu'on prenne n'importe quel enfant du hasard si on est capable de faire un enfant comme ci, comme ça, qui sera pas malade, qui sera heureux, puis peut-être qui sera immortel un jour. Donc c'est assez terrible. Et il se passe vraiment des choses dont on parle pas, c'est ça qui est étrange. Je vais juste citer un travail scientifique de japonais, parce que tout le problème pour trier les embryons, c'est le nombre. Si on a, comme aujourd'hui, 5-6 embryons, on peut pas être trop eugéniste, sinon on les met tous dans la poubelle. Nous avons tous des dizaines de caractères génétiques défavorables, on est porteurs, ils s'expriment plus ou moins, et on finit par être malade et par mourir. Donc on les jetterait tous. Mais voilà que on peut augmenter, apparemment, ça va venir, c'est fait aujourd'hui chez la souris, on va pouvoir augmenter de façon infinie la quantité d'embryons pour un couple donné. Et ça, c'est des Japonais qui l'ont publié dans Nature au mois de novembre. Ils ont, sur la souris, pris des cellules de la queue de la souris et ils les ont transformées en gamètes, ovules ou spermatozoïdes. Et ils ont fait des fécondations avec ces gamètes-là. Ils ont obtenu des petits qui, eux-mêmes, ont été capables de faire des petits. Donc le système marche, même si, pour le moment, c'est une fois sur mille. Mais le système est faisable. Donc
Vous êtes en train de dire que la pâte à culte a fait des petits au sens propre et symbolique du terme, c'est-à-dire que il y a maintenant des techniques beaucoup plus puissantes que celles que vous aviez utilisées pour faire ce genre de travail.
Oui, moi j'ai jamais fait de génétique, hein. Jamais. J'ai fait de la biologie, j'ai fait de la biologie cellulaire, j'ai fait de la procréation, mais j'ai jamais fait de génétique. Mais bien sûr, j'ai regardé de près. Et aujourd'hui, c'est la génétique qui l'emporte.
Donc, ça renvoie à quelque chose que Jean-Michel Beignet écrit dans son livre ou dans un autre, je ne sais plus. Il dit nous sommes des êtres qui nous savons imparfaits. Nous sommes, par voie de conséquence, tentés d'abandonner notre idéal d'autonomie et de nous confier à la perfection de machines qui pourraient nous relayer, qui pourraient choisir et décider à notre place. C'est-à-dire qu'on est en fait fatigué d'être des êtres humains normaux.
Bien sûr, c'est ça qui est le plus préoccupant. Et je perçois, à travers ce que vous dites, à savoir cette espèce de demande émanant des gens concernant l'offre de génétique ou de biologie, bon, j'y vois effectivement le symptôme là d'une espèce de mésestime de soi. L'humanité est entrée, je crois, dans le monde technologisé, dans une espèce de fatigue d'être soi, qui conduit à faire de la machine un idéal du moi, comme diraient les psychanalystes. C'est la machine qui est l'idéal du moi. C'est la machine qui a l'autorité, c'est la machine qui a la puissance, c'est la machine qui a l'invulnérabilité. Bref, tous les éléments qu'on pouvait greffer autrefois sur le père, si c'était le père qui portait l'idéal du moi, la machine l'incarne complètement. Elle est plus fiable, elle est plus réconfortante. Si ça va mal, on se jette sur la machine, comme vers un anxiolytique, enfin en tout cas de quelque chose qui nous soulage de l'angoisse. Je crois qu'on mesure aujourd'hui combien l'addiction aux machines est un symptôme, est symptomatique de cette espèce de désaffection de soi.
Mais c'est un symptôme de dépression. D'ailleurs, vous citez le sociologue Alain Ehrenberg qui dit « Le manque d'initiative est le trouble fondamental du déprimé.
Oui. »
C'est le fait que nous soyons déprimés qui fait que nous nous privons volontairement de notre autonomie pour déléguer toutes les tâches qui nous fatiguent à des machines qui vont tout faire à notre place.
Bien sûr, le déprimé, c'est celui qui se fuit d'une manière ou d'une autre, qui se fuit en écrasant complètement sa vie intérieure et en vivant de manière linéaire, ou qui se fuit dans la fuite en avant. L'hyperactivité aujourd'hui, c'est vraiment le symptôme le meilleur, sans doute, ou le pire, de la dépression. Hein, donc, en finir avec soi. Et le transhumaniste, c'est quelqu'un qui adhère complètement à ce projet, hein, qui annonce l'homme augmenté comme la transition possible vers le post-humain, dont on ne sait pas exactement ce qu'il sera, mais ce qu'on sait au moins, c'est que le post-humain n'aura pas les tares qui sont les nôtres, il ne naîtra pas, il ne souffrira pas, il ne vieillira pas, il ne tombera pas malade, il ne mourra pas. Hein. Donc, qu'aujourd'hui, les promesses technologiques les plus extrêmes aille dans le sens de cette immortalité, c'est quelque chose qui est proprement hallucinant. Mais ce qui m'hallucine encore plus, c'est que le public reçoit de plus en plus ce message.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
En 1956, Günther Anders, que j'ai déjà cité, en 1956, il y a donc plus d'un demi-siècle, avait baptisé du nom de honte promothéenne cette pathologie. Il l'a défini ainsi, c'est la honte qui s'empare de l'homme devant l'humiliante qualité des choses qu'il a lui-même fabriquées.
Bien sûr, c'est ça, cette situation. 1956, c'est le moment où on développe toute la technologie pour la conquête de l'espace aux États-Unis. Hein, et c'est le moment que Günther Anders identifie comme cette espèce de cassure où il aperçoit chez ses contemporains un sentiment croissant, une pathologie croissante qui est le sentiment d'impuissance. Nous nous sentons, au moment même où nous déployons une technologie faramineuse qui va nous conduire sur la Lune, eh bien, nous nous éprouvons comme largués complètement, complètement impuissants, comme écrasés par cela. Bon, dans un livre, j'avais travaillé beaucoup sur la guerre 14, parce que je pensais que c'était plutôt en 1914 qu'on voyait la chose, hein, le moment où la technologie devient guerrière à proprement parler, hein, et écrase littéralement les poilus, hein, dans les tranchées, hein, où non seulement on est complètement anonymisé, laminé par cette guerre, mais en même temps on est dans la situation de se dire, bon, ça va me tomber dessus, tiens, voilà, il y a un missile qui est parti, ça va tomber sur moi. Donc c'est ce sentiment d'écrasement, de laminage, qui va, je pense, conditionner, et c'est ce que montre très bien Ernst Jünger donc dans son livre, Le Travailleur, qui va conditionner pratiquement tout le devenir du XXe siècle. Et Günther Anders ne fait que marquer la chose un petit peu plus. Hein, nous sommes affectés d'un sentiment d'impuissance croissant par rapport à ce que nous avons réalisé pour nous rendre autonomes. Voilà l'ironie en plus.
Il ajoute que nous avons honte de notre origine en fait. Il écrit « L'homme a honte d'être devenu plutôt que d'avoir été fabriqué. Il a honte de devoir son existence au processus aveugle, non calculé et ancestral de la procréation et de la naissance, à la différence des produits qui, eux, sont irréprochables parce qu'ils ont été calculés dans les moindres détails. »
Eh oui, vous vous rendez compte que ce dont nous avons honte, c'est d'être le produit du hasard. Hein? Nous sommes nés par hasard, la rencontre aléatoire de deux gamètes, alors même que dans le monde technologique, nous sommes capables de programmer les choses, nous sommes capables de décider les choses, de contrôler les choses. Donc la honte, elle porte sur le fondamental, être simplement le pur produit de hasard. Ça, c'est l'imperfection majeure à laquelle toute la science et la technique veulent répondre, hein, parce que la science veut supprimer le hasard, veut supprimer, marquer les déterminismes.
Le tri des embryons.
C'est conjurer le hasard, ne pas se laisser imposer la nature. Voilà, c'est ça. Ne pas se laisser imposer la nature, c'est l'obsession de l'homme moderne, hein, et c'est ça dont nous.
Mais en même temps, je voudrais faire remarquer comment ça nous fait entrer dans le transhumanisme. Parce qu'il y a toujours cette différence qui est faite entre l'homme qu'on peut dire soigné et l'homme augmenté.
Réparé.
Donc la médecine, soigné ou réparé. Elle répare, et puis le transhumanisme, il va augmenter. Mais on passe insensiblement d'un à l'autre. Et là, avec ce tri des embryons, déjà, ça s'adresse à toute la population. Il n'y a plus à souffrir la fécondation in vitro. Elle a lieu, mais c'est une affaire de biologiste dans un labo. C'est-à-dire que les gens vont donner un peu de peau. Avec ça, on va tirer des dizaines de milliers de cellules, dont on sortira des centaines ou des milliers d'embryons, et puis on choisira le mieux. Donc pour les gens, c'est tout à fait anodin, il n'y a rien à souffrir, et il y a une espèce de garantie par la science et la médecine qu'ils auront un enfant de qualité. Donc là, on change d'espèce. On devient une espèce qui se reproduit in vitro. Puisqu'il n'y a pas de raison que les gens refusent ça. Peut-être même qu'un jour, on les poussera un peu pour l'accepter. Alors, c'est quelque chose d'important, mais il y a un autre péril, qui est que si on fait ça pendant quelques générations, on va arriver beaucoup plus vite qu'on l'a fait pour nos animaux d'élevage à une sélection humaine sur des critères plutôt subjectifs, à mon avis, mais qui vont être les mêmes partout, dans tous les pays, des critères de qualité humaine. On ne sait pas aujourd'hui ce qu'est un humain de qualité. Grâce au programme qu'on nous propose de séquençage génomique, on va arriver à cerner ce que peut être un génome de qualité. Donc je crois que si on fait ça pendant plusieurs générations, on va changer d'espèce, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des individus avec un certain génome, avec beaucoup de chances de se tromper. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'un gène qui donne une résistance au virus du sida qu'on connaît maintenant depuis 20 ans. Mais si ça s'était passé après qu'on ait été capable de trier les embryons, si on avait méconnu ce gène avant, évidemment, on aurait balancé l'embryon qui porte ce gène, qui est un peu étrange, qui n'est pas majoritaire, alors qu'en fait, c'est un gène bien utile à l'espèce, à ce qu'il porte. Et il y a comme ça certainement beaucoup de cas qu'on ne connaît pas.
Je pense que les biologistes sont particulièrement inquiets, parce qu'au fond, on est en train, bon, très très bêtement, d'attenter à la biodiversité, de supprimer l'hybridation. Hein, qui est constitutif
Mais de la... Mais quand on parle de biodiversité, on parle des abeilles, des ours, des plantes. Oui, oui. On parle jamais de l'humain.
Alors que...
Mais l'humain est menacé directement.
Jacques Tessard, est-ce que vous avez connu Jacques Ruffier, médecin, biologiste?
Je l'ai lu, mais je l'ai pas connu.
Il a écrit en 1986 un ouvrage intitulé « Le sexe et la mort ». Il écrit « Nous sommes les enfants du sexe et de la mort ». Et l'idée qu'il développe et que rappelle Jean-Michel Beignet dans son livre, c'est que la mort présente du point de vue de la sélection naturelle un avantage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce qu'il veut dire par là d'ailleurs?
La mort présente un avantage dans la mesure où elle permet le renouvellement.
Elle fait la place pour les suivants.
Elle fait la place pour les suivants et oui. Elle rebrasse continuellement les représentants de l'espèce.
Laurent Alexandre, par exemple, répond à cette question-là sur le fait que s'il y a immortalité, alors ceux qui sont là pour toujours. Et comment on fait la place aux autres? Il explique que si des gens veulent faire des enfants, il faut qu'ils s'engagent à disparaître. C'est un peu radical.
Donc on ne pourra pas être grand-père si on vit très longtemps, quoi. Bon, alors on va... Parce qu'on va parler du cyber. Enfin, on va justement écouter... Un poème lu par Léon Bonafé, dont le titre est « Cyber », et je le laisse présenter le nom de l'auteur.
Voilà, donc c'est « Cyber » de Jean-Pierre Verhaeghen. « Cyber, cyber, rien que cyber, tout pour cyber, tout par cyber. Même plus le temps d'avoir un seul instant la tête en l'air. Au pied d'Alembert, couché Diderot, voici l'encyclo nouveau du savoir planétaire standardisé. » Après Astérisk et sa vieille clique, SIC, voici Arrobase et sa nouvelle pointe BIC. Place à la cyber-nouveauté. Même si son nom fait penser à celui du bon vieux cabot des enfers, le caniche à carons, le nocher des ténèbres, la bête à trois têtes, l'une tournée vers l'écran de sa télé, l'autre vissée à son PC et la dernière, l'oreille collée à son cellulaire. Cyber et SMS, son alter accro, cet autre mini-cerbère, qui ne cesse de clabauder, tantôt contre notre syntaxe et ses vieilles charnières, surnuméraires, tantôt contre notre orthographe, démodée, inadaptée, périmée, trop compliquée. Trop de lettres, en effet, trop de temps gaspillé, trop d'inutilité, à jeter aux oubliettes, désormais, à mettre aux encombrants aussi secs. Au bac, donc, au panier, à la balayette, sinon à la ramasse, lauréats et agrégés, est-ce matière universitaire fin de siècle? Le siècle, que dis-je, l'ère a un urgent besoin de vous remplacer par des abrégés de grammaire. Place au rapide et à l'efficace, place au compressé allographe et au vocabulaire à la spartiate. Stabat maigraire, c'est la nouvelle prière. De la maigreur avant toute chose, chère rombière. Tiens-toi debout dans la minceur, chère bobonne usagère, t'es usée jusqu'à la sous-ventrière, l'heure est à l'anorexie langagière. Ne disons plus finesse et inventivité. Répondons vitesse, fitness et farniente sous la langue à bronzer. ayons l'air d'être éternellement en vacances épistolaires tout en étant vachement en avance sur le calendrier. Ne prenons pas de retard en écrivant « à plus tard » quand nous prenons congé. Écrivons « à plus » comme en algèbre pressée, voire « à plus plus » quand notre désir de nous revoir est encore plus se rapprocher. Écrivons en chiffres et en lettres mêlées, en icônes, en émoticônes, en iclones infiniment répétées. Écrivons en raboté, en ravalé, en coupé, mais qu'est-ce que je sais ? En rapetissé, en raccourci tronqué, en ratata militaire de ratatouille rudimentaire pour mieux nous exprimer. Oui, raccourcissons. Faisons toujours plus court, y compris pour nos lettres d'amour. Simplifions, réduisons, soudons, oral écrivons, phonétisons.
Merci Léon Bonafé pour ce texte de Jean-Pierre Verhaeghen où il est dit notamment que l'heure est à l'anorexie langagière. Et nous avons choisi ce texte parce que Jean-Michel Beignet, vous avez écrit il y a quelques années un livre dont le titre était « L'homme simplifié, le syndrome de la touche étoile » dans lequel vous racontiez comment le langage est de plus en plus soumis aux standards de la machine, c'est-à-dire nous parlons en fait comme des machines et toutes les subtilités de la langue, tout ce qui est dénotatif et connotatif tend à disparaître.
I like. Non, je crois que c'est...
Mais c'est ça sur le site Facebook de France Culture.
Hein, qui en dit infiniment plus et mieux qu'on ne saurait dire en le commentant. Mais de fait, cette cyberculture qui est la nôtre est attentatoire au langage. On veut en finir avec le langage, hein, et c'est presque délibéré. Certains transhumanistes, il faut le savoir, travaillent aujourd'hui à supprimer le langage et à réaliser la possibilité d'une communication de cerveau à cerveau.
Qu'est-ce qu'il y a de gênant avec le langage ?
Ce qu'il y a de gênant avec le langage, c'est que le langage vous permet de dire ce qui n'est pas. Alors ça peut être le mensonge, mais dire ce qui n'est pas, c'est dire par exemple l'autre chose qu'on pourrait vouloir. Le langage, il est potentiellement toujours révolutionnaire, puisqu'il est une invitation à s'arracher à l'immédiateté des choses. L'animal, il colle aux choses. Hein, il est effectivement à la naissance ce qu'il sera à la mort. Il ne bouge pas, il évolue pas. Nous évoluons parce que nous avons du langage. Et que ce langage, il nous permet de mettre les choses à distance. Hein, les philosophes disent souvent, le mot tue la chose. Oui, nous sommes capables de tuer les choses avec des mots. Et les mots, ça nous permet toujours de mettre les choses précisément en perspective. Vous savez, là, Orwell, il a touché vraiment du doigt la chose essentielle avec son novlangue. Un système totalitaire, il doit s'emparer des mots, il doit imposer la monosémie, c'est-à-dire lutter contre l'ambiguïté, l'ambivalence. Les mots ne doivent plus dire qu'une seule chose, et il ne doit plus y avoir d'adjectifs, ni d'adverbes, ni toutes ces fioritures qui permettent de louvoyer avec le langage. Il faut s'assurer d'une communication transparente. On n'entend que cela aujourd'hui. Une communication transparente, c'est-à-dire une communication qu'on peut contrôler, qu'on peut évaluer, qu'on peut ratifier, hein, qu'on peut manipuler d'une façon ou d'une autre. Donc ces transhumanistes extrêmes qui disent que tous les maux de l'humanité viennent du langage, c'est parce que le langage nous permet de mentir, nous permet de séduire, nous permet d'aller à l'encontre des choses, c'est pour ça que l'humanité va mal. Alors vous avez un cybernéticien qui s'appelle Kevin Warwick, hein, qui aujourd'hui dit, voilà, ce vers quoi il faut aller, c'est vers la possibilité que nos circuits synaptiques puissent entrer en communication les uns avec les autres. C'est facile, ça sera facile avec des ondes électromagnétiques. Et là,
il avait promis que ce serait fait en 2015.
Ça va être fait. Il l'avait promis en 2015, mais
qu'est-ce que vous croyez que vous êtes en train de faire là ?
On avance. Donc voilà, cette offensive et cette volonté d'en finir avec le langage, pour moi, est absolument symbolique de cette déshumanisation qui nous menace et à laquelle on consent peu ou prou, parce que nous consentons aux textos, aux SMS, enfin, etc.
Aux tweets. Jacques Testard, vous êtes, je crois, d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Complètement, oui, complètement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, parce que je l'ai observé, c'est comme une expérience, depuis 30 ans que je fais des conférences pour critiquer l'eugénisme, le transhumanisme, je vois que le public a complètement changé. Bon, il a vieilli, ça c'est peut-être normal, mais en plus, les gens sont beaucoup moins, disons de mon côté, ils sont assez critiques, et quand je parle à ceux qui viennent pas aux conférences, aux plus jeunes, Alors là, carrément, ils m'insultent. De quoi je me mêle? Pourquoi je veux les empêcher de vivre? Donc moi, je suis très inquiet. On a l'impression que les jeux sont faits et que les gens sont dans l'attente bienveillante des progrès qui vont leur apporter du mieux. Comme si on prenait pas en compte tout ce qui est arrivé de pire. Enfin, tout ça, c'est au moment où on se retire d'un tas de technologies dont il a été démontré que, malgré les espoirs, c'était mirifique. Il y a beaucoup plus de conséquences. Je pense, par exemple, à l'énergie nucléaire. On est en train d'essayer d'en sortir, mais il faut 100 000 ans pour en sortir avec les déchets. Et ça va coûter très cher. Mais on peut parler de beaucoup d'autres choses, de l'agriculture productiviste. On essaie d'en sortir, mais les terres sont mortes. Il y a plein d'insectes, d'animaux, de fleurs qui sont ruinés, qui n'existent plus. Donc, en fait, il y a des dégâts irréversibles. Et on peut trouver ça dans beaucoup de domaines. Enfin, il faut quand même bien voir que le changement climatique est un phénomène considérable. C'est bien une conséquence du progrès. S'il s'agit du progrès dans le sens que les gens vivront mieux, évidemment, tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, ça veut dire de la croissance. Et en général, ça veut dire que les gens ont l'illusion de vivre mieux parce qu'ils ont un téléphone portable, parce que ceci, cela, mais que tout ça, on va le payer très cher.
C'est une croissance aussi de la longévité. C'est un sujet que vous abordez tous les deux à distance dans vos livres. La grande longévité ou la longévité augmentée qui est confondue avec l'immortalité. Cette très grande longévité, c'est quand même, si elle advient, c'est quand même la garantie d'être en deuil en permanence. Oui. Vivre très longtemps, c'est être en deuil tout le temps, parce que
en deuil est solitaire.
Laurent Alexandre, dans son livre, enfin dans votre livre, dit que l'être humain qui vivra 1000 ans est déjà parmi nous.
Bien sûr. Mmh.
Vous êtes candidat. Vous êtes peut-être vous.
Moi, je suis pas candidat, mais c'est un slogan qui marche très très bien.
Oui. Hein, alors que quand on le dit
dans une salle comme ça, chacun regarde son voisin en disant pourvu que ça soit moi.
Alors, si on regarde les statistiques démographiques, l'espérance de vie en bonne santé est en train de diminuer aux États-Unis comme en Europe.
On a atteint des plafonds.
Donc, il faut pas non plus se fermer les yeux. On nous raconte des salades.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
J'ai une question pour le biologiste que vous êtes. Comment est-ce que, dans une espèce qui a toujours été mortelle comme la nôtre, on pourrait savoir que parmi nous, il y a des immortels? Pour en avoir la preuve, il faut attendre très longtemps.
Oui, il faut être patient.
Et alors,
il faut être immortel, quoi.
Non, il faut attendre longtemps. Ensuite, admettons qu'on le sache, alors ça fait une vie infernale, parce que le moindre accident peut nous coûter non seulement la vie, ce qui est déjà terrible, mais en plus l'immortalité. Et perdre l'immortalité, c'est quand même plus terrible que de perdre la vie.
Moi, je crois que c'est pas très...
Je suis pas sûr. Je crois que l'immortalité, c'est la perte de la vie. On ne peut pas vivre de la même façon, telle la façon dont on comprend aujourd'hui ce que ça veut dire vivre, si on est immortel. On ne peut pas avoir d'échéancier.
C'est la fin du désir, comme c'est la fin de la vie, bien évidemment. Je crois que c'est presque un lieu commun que de dire que la vie et la mort sont profondément solidaires, et que finalement ce que veulent les transhumanistes dans l'immortalité, c'est simplement éterniser nos métabolismes biologiques. Hein. Ce qu'il y a donc de plus élémentaire et de plus animal en nous, hein, ces métabolismes biologiques. Donc on s'imagine que grâce aux cellules souches totipotentes induites ou de ces machins-là, on va pouvoir réaliser des organes artificiels à la demande, des choses de ce genre qui nous rendront effectivement mécaniquement, si je puis dire, immortels. Hein, mais en aucune façon la vie humaine n'est de cet ordre-là. Je crois que les transhumanistes, ils confondent les conditions nécessaires avec les conditions suffisantes. Il est nécessaire évidemment de survivre pour vivre, mais en aucune façon ça n'est suffisant de survivre pour avoir une vie humaine. La vie humaine, elle est à côté. Nous ne sommes pas des animaux. Là, c'est là où il y a une animalisation. L'animal, il est immortel. Enfin, il est immortel, on peut le concevoir comme ça. L'animal ne sait pas qu'il va mourir, et à chaque fois qu'un animal disparaît, il réintègre finalement son espèce. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour les humains, au fond? C'est ça le vrai problème.
Je crois que c'est ça que j'ai beaucoup apprécié dans un bouquin précédent de vos ouvrages. C'est d'avoir comme base de raisonnement pour justifier l'opposition au transhumanisme qu'il n'y a aucun homme semblable à un autre. Tous les individus sont différents. Et ça veut dire que toute vie, par elle-même, a un prix. Et que le raisonnement des transhumanistes, c'est de traiter comme si on était des machines, effectivement, identiques, fabriquées en série. Alors, on peut les faire durer plus longtemps, on peut mettre de l'huile, on peut... Bon, mais le sujet, il n'est pas là. Il est que chaque humain est différent des autres humains, de tous ceux qui ont existé avant, de tous ceux qui existeront après. À partir de là, il a une valeur qui peut pas être une valeur mécanique.
On pourrait le dire autrement, disons nous sommes chacun le produit d'une histoire. Et quelle est la caractéristique d'une histoire ? C'est qu'elle a un commencement et une fin. Si on nous supprime la fin, on supprime l'histoire. Nous ne sommes plus des êtres d'histoire, donc nous ne sommes plus des êtres de projet. Nous sommes des êtres toujours éminemment remplaçables. Et le critère de l'irremplaçabilité est importante. Un humain est un être irremplaçable. Nous sommes chacun irremplaçables. Eh bien, la technologie appliquée à l'humain ne peut pas prendre en compte ce paramètre.
Mais alors, que dites-vous aux transhumanistes qui disent que grâce au progrès de l'intelligence artificielle, bientôt le silicium va dépasser le neurone ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence ? Quand on lit les transhumanistes, l'intelligence est le QI, qui est un critère dont on connaît les insuffisances et les multiples biais. Mais comment est-ce qu'on pourrait définir l'intelligence d'une façon qui donne toute sa place à l'intelligence humaine et non pas calculatoire ?
Ben, oui, les transhumanistes réduisent, et nous réduisons tous à peu près, il faut bien le dire, nous qui acceptons qu'on parle d'objets intelligents, nous qui acceptons qu'on parle de maison ou de voiture intelligente.
Un objet intelligent, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a d'intelligent, un objet ?
Ben, l'objet est intelligent pour autant qu'il est doté de capteurs qui lui permettent d'enregistrer des informations et de répondre à la situation créée par l'arrivée de cette information.
C'est un automate ?
Bien sûr, bien sûr. Donc là, de ce point de vue-là, vous avez plein d'objets intelligents et on en fabrique toujours un peu plus. Donc l'intelligence, elle est parfaitement mécanique, elle est réductible à du calcul. Hein, et on peut imaginer que nos machines qui calculeront de plus en plus vite seront toujours de plus en plus intelligentes. Mais est-ce que ça a quelque chose à voir ?
Je crois qu'il faut refuser le mot. Il faut refuser le mot dans ce sens-là.
Ben oui, mais il faudrait que les
mots ne soient pas déjà. Un automate ne peut pas être intelligent.
Eh bien, bien entendu pas.
Et puis, si on veut parler de QI, qui est là est une mesure, il faut quand même remarquer qu'il se passe exactement l'inverse de la promesse transhumaniste, c'est-à-dire qu'avec l'industrialisation de l'agriculture, avec les polluants dans l'alimentation, en particulier les perturbateurs endocriniens, le QI va régresser. Donc, on nous raconte n'importe quoi. Et Warwick, qui prévoyait qu'on allait se télé-programmer. Bon, non, c'est pas vrai. Il avait donné une date. Il y en a d'autres. Il y a Kurzweil qui nous parle aussi.
La singularité.
De la singularité pour 2045-2050. Bon, moi, je serais mort. Mais s'il y a des gens dans la salle qui sont encore
vivants, vous allez peut-être mourir après qu'on ait trouvé le moyen de vous rendre. Enfin, avant. Après, plutôt qu'on ait trouvé le moyen de vous rendre immortel.
Mais c'est ça, toute l'ambiguïté avec leur discours, c'est qu'on ne sait pas s'il faut l'attaquer en disant c'est des conneries, ou bien s'il faut dire, bon, peut-être qu'on pourrait faire ça, mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et c'est difficile de se situer sur les deux.
C'est un discours trop global, c'est ça que vous dites.
Oui.
Alors, on voit que ça avance, que les choses avancent étape par étape, et justement, Léon Bonafé va nous lire un petit texte qui s'appelle « Étape ».
De Henri Michaud. Autrefois, j'avais mon malheur. Les dieux mauvais me l'ont enlevé. Mais alors ils ont dit, en compensation, on va lui donner quelque chose. Ah oui, oui, il faut absolument que nous lui donnions quelque chose. Et moi-même, d'abord, je ne vis que ce quelque chose et j'étais presque content. Cependant, il m'avait enlevé mon malheur. Et comme si ça ne suffisait pas, ils me donnèrent un balancier. Or, moi qui avais fait tant de faux pas, je fus content. Dans mon innocence, je fus content. Le balancier était commode, mais sauter devint impossible. Et comme si ça ne suffisait pas, ils m'enlevèrent mon marteau et mes outils. Le marteau fut remplacé par un autre, plus léger, et celui-ci par un autre, encore plus léger. Et ainsi de suite, successivement, et mes outils disparurent l'un après l'autre jusqu'au clou. Quand je songe à la façon dont ça s'est fait, encore maintenant j'en reste bouche bée. Ils m'ont enlevé ensuite mes chiffons, mes bouteilles cassées, tous les débris. Alors, comme si ça ne suffisait pas, ils m'ont enlevé mon aigle. Cet aigle avait coutume de se percher sur un vieil arbre mort, or ils l'arrachèrent pour planter des arbres vivants et vigoureux. L'aigle ne revint pas. Et ils prirent encore mes éclairs. Ils m'ont arraché mes ongles et mes dents. Ils m'ont donné un œuf à couver.
Merci, Léon Bonafé. Est-ce que c'est vrai que la technique nous enlève des choses ?
Elle nous enlève quantité de choses. Elle nous enlève, j'irais jusqu'à dire, la vie intérieure, par exemple, hein, le sentiment de soi, ce qu'on disait tout à l'heure, le sentiment d'être irremplaçable. Hein, la technique nous invite à nous épurer un petit peu, comme le poème vient de le décrire. Hein, nous sommes obligés de nous dépouiller de ce qu'il y a de compliqué en nous, hein, pour une raison toute simple, c'est que si nous voulons interagir avec nos machines, il faut nous comporter nous-mêmes comme des machines. Effectivement, j'avais appelé syndrome de la touche étoile, hein, cette espèce de complexe qui est forcément le nôtre aujourd'hui. Hein, si je veux communiquer aujourd'hui par téléphone, je ne peux pas faire autrement que de répondre aux injonctions du robot qui m'invite à appuyer sur la touche étoile et sur d'autres touches. Je suis contraint à cette espèce de simplification extrême où je ne suis qu'un automate en communication avec un automate pour avoir une réponse concernant la panne de ma machine à laver ou je ne sais quoi. Hein, donc, la technologie nous enlève des choses. Hein, j'ai cherché à le montrer aussi.
Elle nous en apporte d'autres.
Alors,
comment faire le bilan?
Prenons l'homme augmenté dont on parle tout le temps. L'homme augmenté, c'est celui qui voit plus, c'est celui qui mémorise plus, c'est celui qui ne dort pas, etc. Bon, il a effectivement quelque chose comme un plus par rapport à vous et moi. Cela dit, ce plus, il est au service de quoi? Il est au service, effectivement, d'une société productiviste qui a besoin de faire en sorte que nous soyons boostés pour être à la mesure des attentes productivistes qui sont celles de notre monde. Mais cet être augmenté, il n'a pas, assurément, il n'est pas augmenté pour, je sais pas, le jugement esthétique, ou la réflexion morale ou la réflexion philosophique. Hein. Au contraire, je pense que ce qu'il gagne d'un côté, il le perd de l'autre.
Alors ça mène à la question politique, chère à Jacques Testard, c'est comment décider quelle est la place pour l'agir politique? Est-ce qu'on peut mettre au point une sorte d'ingénierie sociale qui nous permettrait
J'aime pas le mot.
Alors, proposer de science citoyenne, enfin... De méthodes pour que nous sachions ensemble exactement ce que nous voulons et ayons les moyens de le faire savoir et de l'imposer même.
Oui, c'est deux choses différentes. Il y a d'une part chercher ce qui peut être le bien commun et il y a d'autre part rendre cette position comme étant la loi, c'est-à-dire lui donner valeur exécutoire. Donc c'est deux choses qui sont assez différentes. Mais même à la première étape, concernant le transhumanisme, c'est difficile. En tout cas, ça, c'est pas possible par les voies habituelles de ce qu'on appelle la démocratie. C'est pas des débats démocratiques, des débats en public, où des savants vont répondre au bon peuple, ils lèvent la main. Bon, les gens sont déjà un peu sous influence de tous ces mirages. Donc il faut se mettre dans une situation où ce sont des individus ordinaires qui vont réfléchir au sujet, mais qui vont apprendre tout ce qu'on doit apprendre, c'est-à-dire les points de vue contradictoires qu'apportent non seulement les sciences dures, mais les sciences humaines, par exemple, et qui vont ensemble réfléchir au problème dans une ambiance telle qu'ils deviennent plus intelligents et qu'ils deviennent altruistes. C'est ce que j'ai appelé l'humanitude dans
mais
mon précédent livre.
Vous pensez aux conférences citoyennes, c'est ça?
Voilà, je pense aux conférences de citoyens. C'est un outil extraordinaire. Les gens sont plus les mêmes là-dedans. Et moi, j'ai aucune confiance dans un débat public. Bon, d'abord, un débat public, personne ne peut dire, finalement, quel était l'avis des gens qui ont assisté au débat. On connaît ceux qui se sont exprimés. Souvent, ils représentent des lobbies. Donc, là-dedans, il y a beaucoup de biais. Mais dans la conférence de citoyens, il y a un avis qui est rendu à la fin, qui n'est pas forcément un avis unanime, d'ailleurs. Ça peut être simplement mesurer les dissensus, mais c'est très important. Mais ce qu'il y a surtout de fondamental, c'est que les gens, dans cette situation-là, vont donner le meilleur de ce que peut donner l'humanité. C'est-à-dire ils vont tous se comporter comme des gens intelligents et altruistes. Je ne l'ai pas inventé, ça fait 30 ans qu'il y a ce genre de conférences, plus ou moins bien faites selon les procédures, mais malgré tout, tous les sociologues qui étudient ça sont d'accord. Il se passe une mutation de l'humanité qui dure que le temps de cette procédure-là, mais qui est une source extraordinaire qu'on devrait exploiter beaucoup plus.
Comment leur avis pourrait-il avoir de l'autorité vis-à-vis de ceux qui veulent devenir immortels ou qui...
Bon, ben non, mais il peut y avoir des lois. On peut dire que telle recherche
interdiction
est interdite,
d'être immortel.
On peut dire que telle recherche est interdite. Ou au contraire, on peut dire qu'il faut faire telle recherche, ça prendrait tous les sous pour faire des choses intelligentes. Il y a plein de recherches à faire qui sont intéressantes. Mais il faut après qu'il y ait une instance d'autorité. C'est pas au niveau national, c'est évidemment au niveau de l'ONU, qui devrait être largement renouvelée, et que devraient être organisées ces procédures dans le monde entier, et que devraient être prises ensuite des décisions qui ne seraient pas simplement « c'est un avis consultatif ». Non, il y a des choses qu'on interdit.
Jean-Michel Beignet, ça vous semble une méthode suffisante ?
Suffisante, non, assurément pas, mais effectivement, la conférence citoyenne me paraît être l'emblème de ce qui pourrait être réalisé à grande échelle, hein, s'il y avait une volonté politique pour l'accompagner. Mais je crois aussi quand même beaucoup, moi, dans l'éducation, et je suis très très sensible à la mobilisation d'un nombre croissant d'intellectuels, d'universitaires, par exemple aux États-Unis, pour encourager, inviter, imposer même, par exemple, le regain d'un enseignement de la littérature chez les élèves ingénieurs. Pourquoi la littérature ? Bah parce que précisément, elle est sans doute le lieu où on peut le plus approcher l'humain dans toute sa complication, c'est-à-dire dans toute son irréductibilité au monde des machines qui est le nôtre. Donc je crois beaucoup, moi, dans les initiatives que prennent certains jeunes aujourd'hui, qui ne sont pas du tout technophobes, loin de là, hein, qui peuvent travailler dans des structures style Payas, Fab Lab, etc., et qui veulent développer des technologies au service de valeurs de proximité, de convivialité, etc. Je crois que ça existe, évidemment, ça n'est jamais visible, on n'en parle pas, mais ça pénètre quand même les jeunes générations, hein, qui sont tout à fait convaincus que la technologie peut nous livrer un monde effroyable et en même temps qui sont convaincus que cette technologie mise au service d'une pensée, d'une vision d'avenir propice à l'humain, eh bien, c'est une carte à jouer.
Dernière question pour l'un et l'autre. Est-ce que vous pensez qu'en 2050, nous lirons des livres entièrement comme ceux que vous écrivez ? Ou est-ce que le livre sera devenu caduc ?
Moi, je ne veux pas faire des pronostics comme les transhumanistes, mais je pense qu'en 2050, on aura changé de monde, c'est évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit le transhumanisme se sera déjà imposé et ce sera sûrement irréversible, soit la revanche de la nature se sera imposée et ça risque d'être aussi très dur à vivre. Donc je crois qu'on va vers des... On me dit que je suis pessimiste, mais il faut être idiot pour ne pas être pessimiste. Il faut être réaliste, oui, effectivement, mais l'avenir est sombre. Et des solutions comme celles que propose Jean-Michel Beignet, bien sûr, personne peut dire c'est pas bien d'introduire de l'intelligence dans la technique, la vraie intelligence, celle-là. Mais il faut aller vite. La technologie va de plus en plus vite. Il y a une accélération des productions dans tous les laboratoires. D'abord, il y a de plus en plus de chercheurs, ils ont de plus en plus de moyens. Tout s'emballe. Et on est là dans un truc où il faut, j'allais dire dans les jours qui viennent, il faut prendre des décisions. Donc, je suis vraiment
Jean-Michel
optimiste.
Beignet, le mot de la fin.
2050, est-ce qu'on lira des livres ? Eh bien, je vais être optimiste. Si les transhumanistes ont raison, et si on atteint ce qu'ils appellent la pensée intégrale, alors la pensée intégrale, ça sera le couplage direct d'Internet avec notre cerveau.
Ah, c'est nos neurones qui vont lire
grâce
directement.
Grâce à des implants intracérébraux. Ça sera tout simple. Numérisons nos livres très très vite, et nous les aurons effectivement immédiatement à disposition.
Ça n'intéressera personne ?
Non, bien entendu.
Déjà aujourd'hui.
Merci à vous deux, Jacques Testard et Jean-Michel Beignet, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et d'avoir joué le jeu de parler en public dans ce théâtre de l'Odéon. Je donne rendez-vous à tous ceux qui le voudront le 18 mars prochain dans cette même salle. Nous nous demanderons comment nous avons su d'où proviennent les atomes, y compris les atomes ultimes, mais pas les ultimatums, c'est pas le genre de la maison. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Yves Lehors et Yvan Turc, et à la réalisation François Connac. Tout de suite, vous retrouvez Antoine Guillot pour Plan Large, le rendez-vous cinéma de France Culture.